Salut Charline.
Vous allez bien les filles?
Oui, ouais, très bien.
On a des sujets.
Oh, calmos, hein. On n'est pas obligé d'avoir une vie de bureau axée uniquement sur le travail.
Mais sur quoi tu voudrais l'axer?
C'est pas la camaraderie, peut-être.
Oh, l'effort de camaraderie, on fait déjà une heure par jour à l'antenne.
Okay,
les gens ne sont pas dupes, Alex.
C'est bon, c'est bon. Sinon, je vais bien, moi aussi. Voilà.
J'avais vu, c'est pour ça que j'ai pas posé la question.
Ok, très bien. Bon, c'est qui l'invité?
C'est écrit au tableau, Alex.
Oh, bah. Curry James.
Oh là là là, ça c'est mal parti.
Hein, on dit Curry James.
C'est un rappeur.
Ah oui. Ok, très bien, mais c'est important d'aider les jeunes talents.
Voilà. Mais c'est pas un jeune talent.
Ah, c'est pas un jeune talent.
Non, Curry James c'est du lourd.
Mais oui, oh, okay. Une star.
Carrément.
Une légende pour certains.
Ah, vois, une légende. Mais comment est-ce qu'on explique alors que moi je suis passé complètement à côté?
Je sais pas, ta culture musicale au hasard.
C'est pas vrai, je suis un tueur en chanson française. Ouais. Bon, après, c'est vrai que chanteur américain comme Jerry Flames.
Curry James
chante en français.
Il est une légende du rap français, monsieur.
Ça alors. Voilà. Je comprends pas.
Alex, par exemple, c'est quoi tes gros coups de cœur musicaux dans cette émission?
Il y a eu Isabelle Aubray, parce que ça, quand elle est venue, bon, j'ai dormi pendant 3 jours avant.
Ouais, et sinon, après.
Enrico Macias, j'ai bien aimé, mais évidemment, mon idole de jeunesse, moi, c'est quand Bernard Minet est venu.
Stop!
Voilà, je pense qu'on a l'explication.
Pour certains, leur héros de jeunesse, c'est Bernard Minet, il y en a d'autres, c'est Curry James.
Ok, bon, mais je vais rencontrer une légende, c'est pas tous les jours.
Oui, mais voilà, même tu pourras lui parler, t'as vu?
Et même il t'écoutera peut-être.
Eh bien, vous savez quoi, je vais lui proposer une idée pour booster sa carrière, faire un feat. Featuring avec Bernard Minet, sur Bioman. Moitié homme, moitié ghetto. Bioman, héros de la galère.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui marie l'actualité et la dérision. Et voici les deux invités qui vont très vite avoir envie de divorcer de la formation. D'abord le rappeur Curry James, avec lequel on a parlé de la Syrie et de l'impuissance de l'ONU. Curry James, il est allé en Syrie déjà, il nous a raconté cette expérience. Et puis on poursuivra avec Louis Srego, qu'on a lancé sur un de nos sujets de prédilection, Louis Srego.
Oui, à vous de lire bien.
Oui,
c'est le du portugais, c'est difficile.
Le sujet de prédilection, c'est la posture saut 2017 des candidats anti-système. Et on va retourner le couteau dans la plaie après aussi sur la disparition de notre antenne en grande onde.
Oh là là.
Bonjour Alex Vizorek.
Allez, remettez-vous, j'ai du chroniqueur de qualité à vous proposer pour aujourd'hui. Évidemment, Juliette Arnaud, fan de Curry James, elle a insisté pour être là et pour parler de son album. Il y aura Guillaume Meurice, comme tous les jours, il a donné un droit de réponse à Éric Ciotti dans l'affaire Cédric Héroux. Vous vous souvenez, cet homme qui hébergeait des migrants dans la vallée de la Roya, et les droits de réponse d'Éric Ciotti, c'est toujours collector. Il y aura du sketch, Louis Srego sera notamment l'avocat du beurre, et évidemment, on termine par du Frédéric Frog.
Un peu plus, je vous le mets.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Donc Alex Vizorek, je vous présente Curry James.
Mais oui, j'étais protégé du rap dans ma jeunesse, mon père est fan de Johnny Hallyday, et je me rattrape progressivement.
D'accord. Bienvenue Curry James, vous sortez votre 7e album, si je ne me trompe, qui s'appelle Mohamed Alix. Alix étant votre vrai prénom?
C'est ça.
Oui, vous appelez vraiment. On peut dire comment vous vous appelez vraiment?
Alix Mathurin.
Voilà.
Ouais, ça fait moins américain.
Ouais, ouais, Mohamed Alix
Mathurin.
Pour un rappeur, ça marche pas trop.
Évidemment, sous la haute autorité de Mohamed Ali, bien sûr, qui vous inspire énormément.
C'est ça.
On va parler de vous et de votre dernier album et d'une chanson en particulier avec Juliette Arnaud tout à l'heure.
D'accord.
Vous êtes un rappeur qu'on dit, très engagé. Vous parlez de choses dont les rappeurs n'osent pas toujours parler.
N'ose plus.
Voilà. Et certains rappeurs aujourd'hui, et vous en faites partie, sont les héritiers des poètes. Vous ciselez beaucoup les mots. Et musicalement, vous seriez les héritiers de qui dans votre catégorie de rap?
Dans la catégorie rap.
Ouais, par exemple.
Ou
musicalement
juste
en général.
De la musique.
Ouais, en général.
On parlait de la musique.
Vous avez des influences antillaises, haïtiennes aussi. Il y a plein de choses.
Ouais.
Mais vous seriez l'héritier de qui?
Je dirais Timano, qui est un groupe de compas haïtien.
Bah ça, Alex, il connaît par cœur.
Qui était un groupe de compas, mais engagé aussi également.
Ah oui. D'accord. Voilà. Alors, vous parlez notamment de l'esclavage, des ravages de la colonisation, entre autres, mais j'ai retenu ces thèmes parce que on les apprend pas forcément à l'école.
Ouais.
Et donc, on se dit finalement, quand on écoute vos albums, il y a certains jeunes qui découvrent tout ce pan de l'histoire qui est souvent dans l'angle mort des manuels scolaires. Ils l'apprennent par vos chansons. On en discutait dans le bureau tout à l'heure avec Juliette qui disait, y a des journalistes noirs aux États-Unis qui disent que le rap, c'est le CNN. Du ghetto, c'est ça?
Ouais, c'est vrai que moi, il y a deux métiers que je voulais faire. J'aurais voulu être journaliste, et j'aurais voulu être avocat. Et que c'est deux métiers que j'ai essayé d'exercer à travers ma musique. Et c'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes dans le rap, avec en écoutant les disques d'IAM ou d'NTM, beaucoup de sujets qui m'ont intéressé en écoutant ces disques-là, c'est vrai.
Ça veut dire que donc vous-même, vous êtes venu à tous ces thèmes par la musique et par les rappeurs engagés qui vous ont éclairé là-dessus ?
Et aussi, parce que aussi je suis d'origine haïtienne. Et les Haïtiens sont des gens assez portés sur la politique. C'est le premier peuple noir qui a eu son indépendance et tout. Et ils sont très politisés, très portés sur la culture aussi. Et donc, mon père m'offrait des livres assez jeunes sur l'indépendance d'Haïti, sur Toussaint l'ouverture, tout ça. Donc, ça vient aussi de ma famille aussi.
Oui, oui. Voilà. Donc, vous faites partie de ceux qui rentraient à la maison avec des livres. Et donc, vous avez déjà cultivé votre différence à ce moment-là, parce que j'imagine que dans le rap, aborder les sujets que vous abordez de façon crue mais ciselée, ça vous marginalise un peu dans le milieu ou...
Alors, avant, c'était commun que les rappeurs soient engagés. Et en fait, le rap aujourd'hui que je fais, que les gens qualifient de rap conscient, c'était en fait le rap tel qu'il était à l'origine. Et ensuite, le rap qui était dit gangster a pris tellement de place qu'aujourd'hui, on qualifie mon rap de rap conscient. Mais en fait, c'est le rap tel qu'il était.
C'est-à-dire que vous serez toujours plus public ennemi que
toujours plus public ennemi que B.I.G. Ouais. Ouais,
quoi qu'il arrive.
Ouais. Moi, je n'ai pas compris cette comparaison.
C'est un truc d'initié.
Plus Léo Ferré que Michel Thor.
Ouais, le nouvel album de Kerry James, c'est Mohamed Alix et Juliette Arnaud, vous surkiffez. Alors, on vous laisse pour une fois la chronique musicale. C'est exceptionnel, mais ça vient du cœur.
Voilà, alors en fait, vous avez un titre dans votre dernier album qui s'intitule « Racaille ».
Ouais.
Je précise « racaille » au pluriel. Vous dites « le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher,
très cher.
Racaille ». J'espère moi aussi. Ça s'appelle une réponse du berger à la bergère. C'est une menace à celui ou ceux d'ailleurs, d'où l'emploi du pluriel, qui ont menacé notamment de vouloir nettoyer une partie de la population des banlieues par le moyen d'un nettoyeur haute pression pour ne pas mettre de nom propre. Ouais. Alors c'est une méthode ancestrale qui n'est jamais décevante. C'est la méthode dite du miroir. Moi c'est pile ce que je dis aux gens dans la rue qui m'adresse un majeur ou qui me traite de salope. Je vous le conseille, vous faites traiter de salope et vous répondez « Ah, un miroir !» Je vous le conseille, rien que pour le plaisir de voir leur tronche. Et bien, racaille, au pluriel, c'est exactement ça. Et vu que c'est le mois de décembre, vous pouvez ajouter un joyeux Noël pour le décorum, parce qu'on n'est pas des chiens non plus. Le truc, Kerry, c'est qu'intuitivement, moi, le mot racaille, il m'a toujours beaucoup plu. Alors j'ouvre le Robert et je cherche son étymologie. Et alors là, tout le monde est d'accord, depuis les quatre coins de la France, depuis le XIIe siècle, ça a toujours eu un sens péjoratif. Définition populace, méprisable, rebut de la société, canaille, lit, plèbe. C'est ennuyeux. Je me rassemble en moi-même et j'en appelle à mon seul dieu à moi. Non, Guillaume ne sourcille pas, je n'y mets pas de majuscule. Dieu de la littérature, Ch'tong. Ça, c'est le bruit de la lumière à tous les étages qui m'arrive. Victor Hugo et Les Misérables, le patron des écrivains français. C'est le public ennemi de la littérature française. Tu peux pas tester. Il a tellement la classe, Victor Hugo, que les Américains, ils croient que c'est à eux et ils en font un carton à Broadway. Le gars qui inventa Cosette, qui inventa Jean Valjean, mais c'est surtout le gars qui inventa Gavroche. Quelles sont les activités de la personne ? Je veux dire Gavroche. Gavroche, il vient et il vit dans la rue. Il pète des réverbères, il vole, il a un sens de la répartie ahurissant. Par exemple, à un moment, il se fait interpeller par un maître de la garde nationale qui lui fait « Où vas-tu, voyou ?» Vous savez ce qu'il répond Gavroche ? Il répond « Je ne vous ai pas encore appelé bourgeois, pourquoi m'insultez-vous ? » Chic, hein ?
Bam !
Description de Gavroche par Hugo. C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, volait un peu, mais comme les chats, riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'a pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il est joyeux parce qu'il est libre, il s'amuse parce qu'il est malheureux. Enfin, Gavroche ne devient jamais vieux. C'est le propre des petits oiseaux de ne pas devenir vieux. Gavroche meurt pas n'importe comment, il meurt dans une émeute. Clin d'œil, clin d'œil. Enfin, à l'époque, on appelait ça une tentative d'insurrection. C'est une affaire de vocabulaire. Ça, c'était en 1832. Évidemment, Gavroche, il est du côté des républicains, face à la monarchie. Punaise, mais c'est moi ou c'est mes yeux ? J'ai l'impression qu'Hugo vient d'adouber l'idée même de racaille. Et Hugo, il en fait une créature noble. Il transforme la racaille en institution, en saint païen, l'enfant des faubourgs, les banlieues de l'époque. Je le cite encore, Hugo, dans le texte. Il dit, c'est surtout dans les faubourgs, c'est-à-dire les banlieues de l'époque, que la race parisienne apparaît, là est le pur sang. Voilà, ça c'est pour ces gens du Front National. Ça finit par une faute de français. Bah oui, parce que quand il meurt sur sa barricade, ouais, il chante « c'est la faute à Voltaire ». Et ça c'est une faute de français. Mais comme c'est Victor Hugo qui l'a fait, eh ben on a le droit de la faire.
Elle rentre dans le langage.
Et si on se fait reprendre par des gens, on peut leur dire « ah bah ouais, mais ça c'est la faute à Hugo ». Je vais vous lire la fin de Gavroche. Il est sur une barricade. Et il court de soldat en soldat pour essayer de choper des cartouches. Une balle pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute. » Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. La petite grande âme se fâchait quand on le traitait de voyou. Kerry James aussi, ça s'appelle racaille. Estimez-vous heureux de ne pas être nommé dans cette chanson.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'elle est votée. C'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse. Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont-ils été condamnés? Ce sont les mecs de cité qui me traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumule des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert, on a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payez pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. votre discours est double. Racaille. Au pays dit des droits de l'homme. Racaille. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S?
Racaille, un beau morceau qui fait 6 minutes et pour l'écouter en intégralité, je vous renvoie au nouvel album de Kerry James qui s'appelle Mohamed Alix. Racaille, c'est-à-dire les gavroches de ce début de 21e siècle, comme l'a si bien dit Juliette Arnaud dans une chronique consacrée à l'album de Kerry James. Les derniers habitants d'Alep sont pris au piège, hein, vraiment véritablement fait comme des rats. Alors on se demande pendant ce temps, que fait l'ONU?
On tourne en rond, hein. Alors, ah, voilà. Non, allez. Ici, on veut. Non, c'est pas valable.
Ou alors?
Mais non, endormez-vous.
Appuyons là où ça fait mal avec les gendarmes pour illustrer l'impuissance de l'ONU qui frise quand même le ridicule. Alors Kerry James, aujourd'hui, on peut en un clic, quasiment virtuellement bien sûr, marcher dans les rues d'Alep dévastées. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut aussi même presque communiquer avec les habitants, c'est-à-dire on peut lire leurs témoignages en temps réel, on peut les voir mourir en temps réel, dire adieu sur les réseaux sociaux, etc. On est tellement connectés, on les voit, on marche dans les rues. Et ça ne déclenche rien. Alors, une question qui n'est pas facile, mais on va la travailler ensemble. Plus l'observation est massive, plus on est dedans, et plus on est passif. Voilà, c'est une question, on est sans voix et sans vraiment réponse. Je ne sais pas si vous en avez une ou si vous avez une réflexion
parce que
là-dessus.
On est tellement habitué à voir des images sanglantes aujourd'hui que finalement, ça nous a un peu... On est plus sensible à tout ça. Et moi, j'étais en Syrie, quand c'était encore possible d'y aller. Mmh. J'étais,
à quelle période vous êtes allé
Vous savez, quand j'ai fait ma période de retrait que vous avez évoquée, j'étais à Alep, j'étais à Homs aussi, j'étais à Damas. Et j'ai trouvé un peuple hyper accueillant, vraiment gentil, vraiment honnête. Je vous donne une anecdote. Mmh. J'ai un ami qui a oublié un jour 1000 euros dans un taxi en Syrie. Et le taxi est revenu et à l'hôtel lui rendre ces 1000 euros. C'est ça le peuple syrien.
Ah, c'est pas le Valois-Perret. Ouais,
voilà, je suis particulièrement touché par ce qui se passe là-bas. Mais quand même. Je voudrais préciser quelque chose, c'est que on dit que l'ONU n'en fait pas assez. Je pense aussi que l'ONU en a fait aussi beaucoup, mm-hmm. et qu'il faut pas oublier que il y a des groupes terroristes qui ont été financés par les Occidentaux et que ça a déstabilisé le pays, et c'est important de le souligner.
De toute la région.
Voilà,
aussi,
c'est important de le souligner et que. Je veux dire, les civils syriens, quand ils reçoivent des bombes de la coalition ou quand ils reçoivent des bombes qui viennent de la Russie ou du régime, ils ne font pas la différence. Ils ne disent pas « ça, c'est une bombe ». Voilà. C'est le peuple qui souffre dans tout ça. Voilà.
Kerry James, vous, en tant qu'artiste, en plus, comme vous y êtes allé, que vous vous êtes touché, que vous connaissez ce peuple syrien, vous avez ça dans vos tripes. Ouais. Alors, vous dites, c'est vrai qu'on s'habitue, mais là, on sent vraiment, on sent cette impuissance et cette rage. On a envie de descendre dans la rue. Il n'y a personne qui lance l'appel, pas d'intellectuel, pas de... Voilà. Vous, en tant qu'artiste, vous êtes hyper écouté, etc. Ça vous titille ou le sujet est trop difficile pour
Non, j'en ai parlé dans une chanson du dernier album
que
qui s'appelle
« Vivre ou mourir ensemble ».«
Vivre ou mourir ensemble ». J'en parlais déjà dans Dernier MC, le précédent album, mais le sujet n'était pas encore sur la table. Alors les gens sont passés un peu, un peu à
côté. Vous dites « De la Libye à la Syrie, ils reproduisent les mêmes erreurs. Leur politique extérieure nous fait saigner de l'intérieur. » Saigner de l'intérieur, c'est bien le résumé de ce que vous pouvez ressentir.
Exactement.
Kerry James, on a une proposition à vous faire qu'on fait tous les jours.
Tous les jours, l'invité reçoit un sketch qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas travaillé. Je vous ai donné le rôle de Vincent Bolloré. Parce qu'on a appris ce matin que Vincent Bolloré allait se confesser deux fois par semaine chez l'abbé Grimaud. C'est son maître à penser. Il y va deux fois par semaine. Comment ça peut se passer? Évidemment, confesse, c'est notre ami Guillaume Meurice. Vous êtes Vincent Bolloré. Qu'est-ce qui s'y dit ?
Comment vont les affaires, mon fils ?
Alors, vous avez le texte ?
Alors ?
Là, vous avez le texte
ici. J'ai vu. Alors, il dit plutôt bien, j'ai fait du ménage à Canal+.
C'est tout ?
Il dit non, j'ai aussi fait du ménage à iTélé.
Rassurez-moi, mon fils, vous n'avez quand même pas supprimé le journal du Hard ?
Il dit non, j'aimerais qu'il soit présenté par un expert.
Ah, désolé, je ne suis pas disponible samedi soir.
Il dit, mais non, pas vous, j'avais pensé à mon rondini.
Ah, mais Jean-Marc, il ferait un très bon curé, lui.
Il dit, Dieu entend.
Oh là.
Dieu entend tout. C'est qui, lui ?
C'est 9e fortune de France.
Lui ? Avec sa tête de représentante photocopieuse ?
Il dit, je vous signale que j'ai quand même un yacht.
Oui, il a aussi les droits de retransmission des matchs de Ligue 1.
La Ligue 1. C'est le championnat que j'ai créé le 7e jour, ça.
Le CFC, le Canal Football Club, va très bien.
D'ailleurs, monseigneur, monsieur Bolloré va bientôt rebaptiser le CCF. Le CCFC, le Catholic Canal Football Club, effectivement.
Il dit, c'est compris.
Oui, on est toujours OK pour 2017 ?
Je vais m'abonner à Mediapart.
N'en faites pas trop, quand même.
Je déconne, que puis-je faire pour vous ?
Mettre le paquet pour soutenir François Fillon.
C'est comme si c'était fait.
Les 24 heures du Mans tous les jours à la place du Grand Journal.
En termes d'audience, ça pourrait pas être pire.
Et la retransmission du jour du Seigneur, alors ?
Alors, il dit dès le samedi soir.
Ah bah non, ah non, 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 non.
C'est pas une bonne idée ?
Ah non, pas touche au film porno.
Non. Non.
Une dernière demande ?
Oui, j'aimerais que vous remettiez les guignols.
On a déjà Hanouna partout.
Oui, non mais les guignols, vraiment, les vrais, j'aime bien.
Vraiment, vous aimez les guignols ?
Bah quand on est Dieu, on n'a pas le choix.
Vous êtes sur France Inter si vous nous rejoignez. Et vous arrivez à un moment qui est particulier, qui s'appelle le moment Meurice.
Moment clé de l'émission. Et aujourd'hui, il a passé un petit coup de fil à un ami. À un ami à lui, Éric Ciotti. Parce que là, il y a une semaine avant, il avait parlé à Cédric Héroux. Et donc, il fallait donner le droit de réponse. Et Guillaume vous explique tout ça.
J'ai donné la parole il y a quelques jours, rappelez-vous, à Cédric Héroux. Un agriculteur qui habite à la frontière italienne et qui aide les réfugiés.
Un délinquant.
Bref, voilà, voilà, un délinquant, une saloperie d'islamo-gauchiste. Tendance punk à chien, producteur de tapenade, hein, de surplus. Bref, un étrange. Un danger pour la République selon la droite ou l'homme idéal pour Charline Van Hoenacker. Depuis, il s'est passé des choses pour Cédric. Il y a eu son procès. Le procureur a requis contre lui une peine de 8 mois de prison avec sursis. Mais il a été également élu azuréen de l'année par le journal Nice Matin.
Oh, le scandale.
Ouais, Nice Matin, qui est un journal de gauche à peu près autant que le journal La Croix et le Kamasutra. Il y a à peu près le genre. Mais bon, il a gagné. Et le résultat de ce vote a beaucoup énervé Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, donc, je l'ai dit, droit de réponse, donnons la parole à Eric.
Cette élection repose sur une sélection d'abord.
En même temps, c'était une élection, les gens ont voté.
Mais peu importe.
Oui, on s'en fout, hein, le vote, on s'en tape. C'est la grande tradition de la démocratie à droite, qui va de Charles Pasqua à Jean-François Copé, en passant par Jean Tiberi, que des démocrates en puissance. Les Montesquieu de l'avenue Montaigne, hein, comme on les appelle. Mais bon, Éric Ciotti est choqué, et ça, attention, on respecte.
Ce qui me choque, c'est qu'on mette en exergue des comportements qui, pour moi, sont dangereux.
Mais pourtant, il sauve des vies aussi un petit peu à sa manière, non ?
5000 morts l'année dernière, non, il ne sauve aucune vie.
Alors, première info, Cédric Héroux ne sauverait aucune vie. Les gens qui récupèrent sur le bord de la route seraient donc de simples randonneurs. Étrangers, certes, mais qui s'entraînent pour Koh-Lanta, certainement. On le sait, il y a beaucoup de Syriens, de Soudanais, d'Érythréens qui rêvent de rencontrer Denis Brognard. C'est un petit peu notre rêve à tous, on peut comprendre. Alors que nous, bon, bah, comme des cons, on se disait juste que ces personnes étaient en péril.
Mais ces personnes ne sont pas en péril. Elles sont en situation illégale sur le territoire national.
Si elles dorment dehors dans la montagne, elles sont peut-être un peu en péril, non ?
Il n'y a pas de péril.
Il n'y a pas de péril, vous voyez, il n'y a pas de péril. Voilà, laisser des gens dormir dans la montagne en chaussettes et en t-shirt, surtout quand on est mineur. Hein. On le dit d'ailleurs aux jeunes qui nous écoutent, tentez le coup. Hein, bon, il y a un risque de finir en surgelé, mais bon, c'est vivifiant quand même la montagne. Renseignez-vous sur le site internet véroniquecourgeot.com. En attendant, revenons à Cédric et aux autres qui aident les réfugiés. Que doit-on en penser ?
La pratique de ces personnes, c'est tout le contraire de l'humanité. C'est la fermeté qui est gage d'humanité. 5000 morts en Méditerranée en 2016, c'est ça.
Est-ce que c'est de la faute des gens qui les accueillent en France ?
C'est la conséquence d'un message de trop grande faiblesse.
Oui, alors, je fais un petit peu de traduction. Pour Éric Ciotti, faiblesse veut dire générosité. Il y a des mots comme ça à droite en politique. Par exemple, quand on vous parle de flexi-sécurité, il faut comprendre toucher rectal avec une batte de baseball. Vous voyez, il y a quand même une traduction à faire. Droit de l'homiste, par exemple, c'est devenu une insulte. Hein. Ils s'insultent comme ça à droite. Espèce de droit de l'homisme. Quoi, répète ça, saloperie d'humaniste. Oh, on se calme, hein, sinon je vous traite de gens intègres. Les débats sont quand même, non, c'est quand même vachement violent à droite. Il y a un langage à connaître. Mais de toute façon, est-ce que Cédric Herrou a vraiment fait preuve de générosité selon Éric Ciotti?
Quand M. Herrou a débattu face à Manuel Valls, finalement, il a démontré son vrai visage. Ce n'était pas celui de quelqu'un qui voulait faire preuve de générosité. C'était quelqu'un qui...
Vous pensez qu'il ne fait pas preuve de générosité?
La générosité de se mettre en avant médiatiquement, d'aller chercher des personnes en Italie avec des journalistes, je ne suis pas sûr que ce soit de la générosité pure.
Mais bien évidemment, pourquoi il fait ça, Cédric Herrou? Parce qu'il veut qu'on voit sa gueule à la télé, tout simplement. Il veut vendre de la tapenade. C'est le lobby de l'huile d'olive, on le sait, Cédric Herrou. Ils sont ultra puissants, c'est scandaleux. C'est un mec qui cherche à être dans les médias et c'est tout. Heureusement qu'il y a des gens comme Éric Ciotti qui ont plus de retenue et qu'on ne voit jamais dans les médias. Enfin, en tout cas, pas plus d'une fois toutes les cinq minutes. Éric Ciotti, Éric Ciotti, ça résonne pas français, ça, dis donc. Il vient d'où, Éric?
Je vous transmettrai mon arbre généalogique. Comme tous les Niçois, on a des liens naturellement avec l'Italie, mais j'ai trouvé mon premier ancêtre italien qui venait de Trévis dans la cinquième génération.
Ah ben voilà. Vous êtes un descendant d'immigrés alors?
Du côté de ma mère, c'est une branche française, mais en tout cas, je crois que...
Mais c'est pas grave, on vous accueille quand même. Hein.
Non. Votre propos est très caricatural et très militant, monsieur.
Oui, contrairement à Éric Ciotti, qui n'est jamais caricatural et jamais militant dans ses propos. Merci Éric, hein, donc on vit toujours dans un monde qui vante la libre circulation des marchandises, mais pas des personnes. Conseil aux réfugiés, donc, devenez un objet, vous aurez plus de droits qu'un être humain. Alors attention, si vous devenez un paillasson, hein, n'allez pas voir Éric Ciotti, il a déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Together sur France Inter, des The Beatles.
C'est un très très bon groupe. dans mon cœur, ex aequo que les Charlots.
D'accord. Lui aussi a formé un groupe à un moment avec des proches, Claude Villers. C'est Louis Rego du tribunal des flagrants délires, entre autres, qu'on a eu le bonheur de retrouver sur cette antenne en très grande forme. Bon, on y va tout de suite, on est impatients de le retrouver.
Envoyez le Rego.
Louis Rego, on est ravis de vous retrouver.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie beaucoup, je suis rarement invité, merci beaucoup.
Ah ben alors, pas assez, parce que nous on vous inviterait tous les jours si on pouvait.
Oh, non, j'y tiens pas non plus spécialement.
Ah, d'accord, super, merci, ça commence très bien. Alors, mais on a une bonne occasion pour ça aujourd'hui, c'est la réédition d'un florilège de vos plaidoiries dans le tribunal des flagrants délires. Il y a un coffret avec trois CD.
Alors déjà, vous, nous, on a écouté attentivement. Hein, c'est.
On aime bien. Hein.
Bah, on aime bien. C'est toujours bon.
Merci beaucoup.
Et qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a frappé à la réécoute? Parce que vous avez un peu réécouté. C'est un travail de compilation, donc vous êtes replongé dedans.
À la réécoute, je suis un peu bavard. C'est ce qui me frappe. Bon, enfin, bon, il y a des choses qui se tiennent toujours. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est surtout dans ce choix, c'est que je suis en phase avec l'actualité d'aujourd'hui, quoi.
C'est l'actualité d'aujourd'hui qui est en phase avec vous.
Oui, si vous voulez. Voilà, c'est parce que j'évitais aussi de citer des noms propres, des noms des gens qui se démontrent très vite, bien entendu. Oui. Et que je survolais plus les choses que je ne rentrais dans le détail des affaires politiques et des choses comme ça.
Et
puis aussi où je m'étais fixé quand même quelques règles.
Ah, puisque c'était du quotidien. Ah,
par exemple, je ne voulais pas parler de politique tous les jours. Je le faisais qu'une fois par semaine. Mm-hmm. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu des tas de petits trucs comme ça. J'allais pas dire. À l'époque, vous savez, dans les années 80, d'un seul coup, la vanne de la radio. C'est vraiment dégagé, quoi. On pouvait tout faire. On a eu un sentiment de liberté extrême.
Oui, le début des années 80. Voilà, au début des années 80. Aussi.
Alors, les grossièretés, tout ce qui était mots autrefois qui était maudit, tout le monde y allait à fond la caisse, quoi. Par exemple, je disais pas le mot merde n'importe comment, quoi.
Ah, là, vous l'avez dit, là, on va avoir des problèmes.
Il y a des manières. Alors, nous, ce qui nous a frappé, c'est
donc,
évidemment
voilà,
le.
J'ai pris quelques principes comme ça, de fabrication.
Ce qui nous a frappé, nous, c'est le temps. Déjà, les chroniques, les plaidoiries, elles peuvent durer 2-3 minutes, 8-10 minutes. Les respirations, les silences. Vous, vous vous trouvez très bavard. Et nous, avec la radio qui s'accélère, nous, c'est nous qui avons l'impression d'être beaucoup plus bavard que vous, en tout cas.
Non, c'est pas ça. C'est peut-être parce que vous êtes beaucoup plus sur l'actualité à chaud que je ne l'étais.
C'est vrai aussi. La posture politique du moment, c'est l'antisystème qui perd son sang-froid, c'est toujours mieux. Le candidat antisystème avant, c'était un Laguiller, un Besancenot. Hein, ainsi donc, nos candidats rêvent tous d'être Besancenot.
Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovre, des Hohenzollern. Rien que des michetons garantis croisades.
C'est oublié dans Le Cave se rebiffe. Alors, après Emmanuel Macron, alors il y a aussi Le Pen, il y a Mélenchon, voilà Valls qui se pose là en anti-système. Louise Rego, elle a un peu évolué la notion d'anti-système?
C'est-à-dire que le mot est creux. Une fois que tout le monde s'approprie d'un mot, le mot ne veut plus rien dire, n'est-ce pas? Ouais. Parce que système quoi? Système démocratique? Système D?
C'est pas que le système, en fait.
Ce n'est pas à préciser. Ouais. Donc, ça perd son sens. Donc, nous voilà encore dans les embrouilles, comme d'habitude.
Ce qui est pas mal, c'est que ça emmerde Marine Le Pen, qui, dès qu'elle va dire anti-système, tout le monde va le dire, ça va, tout le monde est anti-système. Donc, elle va être obligée d'être la candidate du système, et là, on va rigoler.
Excusez-moi, c'est comme si une candidate à l'élection de Miss France disait « je suis anti-beauté », quoi.
Oui, c'est un peu ça. C'est la parole de l'avocat le plus bas d'Inter qui est avec nous. Et justement, ce poser en anti-système, d'après, si on les écoute bien, c'est d'abord s'en prendre aux journalistes. Ça fait tout de suite anti-système. Et aussi s'en prendre un peu à l'humour politique. C'est de bon ton pour les politiques, notamment, il y a François Fillon, il y a Valls, il y a... qui s'en prennent...
Vous êtes en danger, hein. Je parle pas pour moi, parce que je suis à la retraite.
Vous croyez vraiment? Vous pensez danger. Ouais, vous pensez... Non mais vraiment,
vous pensez... Vous pensez pas que vous allez continuer à rigoler comme ça, si... avec le Front National? Je n'y crois pas deux secondes.
Mais vous êtes le premier à avoir fait rire un Front National sur cette antenne. Parce que...
Répondez.
On le tient, comme elle est porte. Quand on a fait rire Jean-Marie Le Pen, c'est pas évident.
Mais vous savez, les conditions, il faut s'en tenir aussi à l'historicité.
C'est-à-dire
à ce moment-là...
Il buvait.
Il se droguait. À ce moment-là, le Front National n'était pas devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Mais peut-être c'est en lui ouvrant la porte.
C'était... Le retour, personnellement, j'ai rien ouvert du tout.
Non, c'est pas vous que je... Mais est-ce qu'il y a déjà eu débat à l'époque sur est-ce qu'on doit inviter Jean-Marie Le Pen pour rire avec lui?
Absolument, le débat existait déjà. Et je vous rappelle que
pendant toute la période du début de Mitterrand, la polémique « doit-on laisser exister et vivre le Front National ?» malgré les propos racistes, elle était de mise. Il y avait ceux qui disaient « la démocratie doit respecter toutes les opinions » et il y avait d'autres qui disaient « non, les opinions racistes ne sont pas respectables ». Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Quoi. Je veux dire, est-ce que le racisme est respectable ? Il y a des lois mémorielles qui s'attaquent à des gens, on pourrait citer des gens qui ont été déjà victimes de ces lois mémorielles. Mais comment se fait-il qu'un parti qui prône le racisme et qui va passer peut-être demain à l'action et mettre en œuvre l'action, le discours qu'il a. Je ne comprends rien. Si vous voulez, actuellement, je ne comprends pas.
Vous, aujourd'hui, vous seriez pour l'interdiction du Front National, par exemple ?
Aujourd'hui, c'est difficile à faire. Je ne suis pas dans la politique et c'est très facile de dire je suis pour ci ou pour cela. Mais on demande des explications, en tout cas, à ceux qui ont la prétention de savoir.
Et c'est vrai que le tribunal des flagrants délires, c'était 80-83, et c'est Mitterrand qui a ouvert la porte médiatiquement à Jean-Marie Le Pen.
Il y a eu un courant d'air.
Il a ouvert la porte,
mais bon, au début, le problème se pose chez nos voisins, les Allemands aussi. Hein, je veux dire, ils ont mené une politique de tolérance au groupe nazi. Hein. Ils avaient une radio et tout, sauf que les Allemands, ils surveillaient ça de très près. Et juste jusqu'où on peut laisser propager le discours raciste, parce qu'à un moment donné, il va agir. Hein, je veux dire, et ça, c'est pas ça. Je veux dire, comment rire sur la torture ? J'ai écrit ça il y a quelques années, mais je vous garantis que c'est pas facile.
Et c'était qui les bons clients à l'époque, ceux qui rigolaient ? Parce qu'ici, dans le coffret, il y a Poniatowski, sur... il y a Le Pen, il y a Harlem Désir. C'était qui vos bons clients ? De la, les politiques qui riaient facilement avec vous.
Je ne sais pas parce que.
Poniatowski, vous l'appeliez Mimi quand même.
Parce que oui, bon, c'était déjà une atmosphère très détendue. C'était, vous savez, il y a eu une ressuscité de l'émission, si j'ose dire, quelques années plus tard, en 1998. On a fait une saison encore. Voilà, le ton là était un peu différent. Moi-même, j'avais changé aussi en quelques années. Et bon, il a rigolé, mais enfin, je l'ai pas cuisiné vraiment. Quoi.
Mais eux se revendiquaient plus du système à l'époque quand vous les receviez. C'était parce que là, on parlait des candidats anti-système. Là, ils disaient, moi, je suis le système, et ça, c'est comme ça qu'ils se posaient là devant vous.
Non oui, oui, mais aujourd'hui, l'hypocrisie, elle bat des records, quoi. Et je sais pas, ils ont affaire à des gens malhonnêtes ou idiots ou les deux à la fois, quoi. Que c'est incompréhensible.
Une dernière chose sur le fait qu'ils se posent en anti-système, c'est que maintenant ils doivent éviter à tout prix d'être le favori, parce que s'ils sont favoris dans la sondage,
ça fait bien aussi. Celui qu'on n'a pas vu venir.
Ouais, c'est ça. L'avocat général du tribunal aurait beaucoup de choses à dire là-dessus.
Je donne juste un petit conseil français. Ne vous baissez jamais pour laisser vos chaussures. On ne sait jamais qui peut être derrière vous.
Louis Rego est avec nous jusqu'à 18h. Hippolyte Girardot, qu'avez-vous à nous proposer aujourd'hui ?
Bah voilà, tout à l'heure, j'ai pas répondu, qu'on m'a dit, mais ta chronique, c'est sur quoi ? Parce qu'en fait, ma chronique, c'est sur 100. S-A-N-S. J'ai lu un gros dossier dans Le Monde du week-end sur la vogue du sans viande, sans gluten, sans lactose, sans allergène, sans colorant, sans conservateur, mais sans rien, en fait. Et c'est indécent, cette manie du sang. C'est vrai. Et ceux qui veulent du avec, comment ils font? Parce qu'on va se retrouver avec des boulangeries avec gluten et d'autres sans. Et le tout à l'avenant, c'est ça. Mais moi, j'aime pas beaucoup ces histoires de tri, franchement. Parce que ça va finir dans le sang, cette histoire. Alors je sais, bon, c'est vrai, les listes dans une chronique, c'est chiant. On préfère 100, mais parfois il le faut, même si on ne liste pas jusqu'à 100, loin s'en faut. On a donc,
des fois.
Et donc, on a laissé faire les yaourts sans matière grasse, les sodas à 0%, les sauces sans huile, puis habitué, on a même acheté sans faire gaffe du chocolat à 0%, des céréales à 0%, et puis un jour, le truc, la vraie bombe, c'est la bière sans alcool. Alors là, l'apparence de la bière, mais quand vous la buvez, évidemment, vous la recrachez. Parce que la bière avec, vous la recrachez aussi, parfois. Oui, c'est vrai, ça arrive, mais c'est parce que vous en avez bu beaucoup. Donc, c'est pas tout à fait pareil comme vomi. Voilà. Bref, c'est assez contagieux ce truc du sang. Ça fait école. Parce que ça devient assez facile d'avoir son sang. Je veux dire, pour ceux qui écouteraient la radio au lieu de me lire, ça devient facile pour beaucoup de dire, eh bien, moi, perso, je préfère X sans Y. Regardez Macron, notre nouvelle idole, qui préfère la France sans les départements d'outre-mer quand même. Valls, qui veut être président, mais sans 49-3. Le président, lui, qui préfère qu'on fasse sans lui, sans façon, merci beaucoup. Trump, qui préfère les États-Unis sans les immigrants mexicains. Bachar, qui préfère Alep sans ses habitants. Palmyre, maintenant, reconstitué en 3D à Paris, mais sans Palmyre en Syrie. Non, évidemment, je parle évidemment aussi de la radio sans les grandes ondes, hein, camarades. Mais je parle aussi des films pornographiques où les femmes n'ont plus de poils, sans poils. Ou les restaurants où la bouffe est sans caractère, la musique de fond sans don et l'ambiance sans ambiance. Ou bien alors, évidemment, maintenant, ces cafés sans femmes. Ou ma femme sans moi. Je sais pas pourquoi j'écris ça. Bref, alors, ça me stresse, moi, cet effacement généralisé. Heureusement, des trucs restent. Eh oui, eh oui. Il y aura toujours un monde avec Star Wars, par exemple. Et donc, hier, j'ai été voir le Rogue One, un spin-off de Star Wars. Bon, déjà, mauvaise surprise, c'est sans ce fameux générique déroulant, vous savez, où on lit « C'est une époque de guerre civile, à bord de vaisseaux spatiaux opérant à partir d'une base inconnue, les rebelles ont emporté leur première victoire sur l'abominable Empire Galactique. » Le texte disparaît peu à peu, ce qui fait qu'on ne sait plus du tout le début de la phrase quand on est à la fin. Moi, j'adorais ça. Voilà, j'adorais ça. Et ben là, c'est sans. Mais c'est pas le pire. Ah non, c'est pas le pire dans Rogue One. Le pire du sang, c'est qu'il y a un personnage, le commandant de l'étoile de la mort, un type austère qui fait peur, qui était là dans le premier Star Wars de 1977. C'est Tarkin. Il est joué par le même acteur. Après t'être réjoui de retrouver le type, tu te dis « Attends, il se fout de moi ? C'était en 77, ça fait donc 39 ans, mais c'est pas possible, le mec il devrait avoir 110 ans !» Eh bien, grâce aux merveilles électroniques, Peter Cushing est là devant nous, alors qu'il est mort et enterré en Angleterre depuis 1994. C'est le sommet de la vogue du sang, non ? La vie, mais sans la vie. Voilà. D'ailleurs, quand je me suis demandé, mon cher Alex, comment intituler cette chronique, c'était déjà écrit dans la cartouche du texte en gros, c'était marqué « sans titre
». Hippolyte Girardot.
Mais c'est terrible cette histoire de cet acteur. C'est ahurissant. Enfin, moi ça me touche très personnellement, bien sûr. Mais le type est là, il joue, il parle, il est là devant nous. Et le type est mort et enterré en anglais depuis 94.
Vous ne servez plus à rien, Girardot.
Mais c'est ce que je me dis.
On a votre empreinte biométrique.
Rien. On va faire un spectacle bientôt virtuel.
Oui. C'est vrai, avec des hologrammes.
Il faut se faire motion capturer. Et puis voilà, forever.
Se faire motion capturer. Oui, vous êtes sur France Inter 2.0, nous sommes modernes.
Avec la drogue.
Avec Louis Rego. Et tiens, ce troisième sujet, nous le dédions à ces dizaines de milliers, parfois même ces centaines de milliers d'auditeurs qui nous écoutent par la magie des longues ondes, celles qui portent nos voix à travers toute l'Europe. Alors bien sûr, il y a Internet, si vous baladez votre ordinateur de la cuisine à la salle de bain, hein, évidemment. En attendant, la France Inter s'arrête au poste de douane. Tiken Jaffa Coli, ouvrez les frontières. Louis Rego avec nous pour ce nouveau combat qui nous anime à annuler tout. La fin des longues ondes. Les longues ondes allaient vraiment traverser l'Europe, d'Oslo à Malaga, mais il y a beaucoup dans les bassins francophones comme la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, beaucoup d'auditeurs qui vont devoir donc se reporter sur Internet. Car oui, sachez que vous n'aurez plus les longues ondes, mais nous sommes filmés. Et ouais, sur France Inter.fr, bien sûr. Les longues ondes, ça évoque quelque chose pour vous, Louis Rego, vous avez des souvenirs de ça, une couleur?
Oui, j'ai eu, quand j'étais petit, j'avais une radio comme ça.
Une radio comme sur la photo des articles photo, de Télérama sur le sujet. Voilà.
Non, mais bon, bah, s'ils sont privés de la pub sur RTL, est-ce que c'est vraiment grave?
C'est-à-dire? Non, là, c'est que France Inter, c'est que Radio France.
Oui, oui, oui. Bon, là, c'est un peu dommage, je trouve.
Nous, on est colère.
Ils reçoivent plus de médecins non plus.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, remarque, finalement, c'est cohérent. On va mourir, les gens.
Et vous avez plein d'endroits où le réseau ne marche pas.
Mais cette connexion à marche forcée, parce que quand on a des habitudes de radio, on se lève avec la radio, on mange avec, là on va devoir se connecter au Wi-Fi avec une radio Wi-Fi ou écouter via l'ordinateur. Cette connexion à marche forcée partout tout le temps, au moment où on nous dit qu'on est épié partout par Google, par notre aspirateur,
mais
etc.
C'est la vérité.
Bah oui. On peut plus résister.
Mais quel est l'argument technique pour ce
argument financier?
Le pognon.
Le pognon, ah oui, ça c'est mauvais, parce que du pognon, il y en a de plus en plus.
Oui, mais il est moins bien redistribué.
Bien sûr, il faut aller chercher là où il est.
Alors, voilà. Donc, c'est vrai que Radio France, si Radio France n'a pas l'argent pour mener sa mission de service public, elle ne peut pas être d'utilité publique, elle ne peut pas aller jusqu'à...
C'est la faute de l'État, qui ne donne pas ses sous.
Donc, qu'est-ce que fout le ministère de la Culture?
Est-ce qu'il nous écoute, au moins, le ministère
de
la Culture?
Je ne sais pas, la France ne doit-elle pas rayonner avec cette magnifique radio?
Absolument. Il faut aller envoyer quelqu'un chercher dans le budget, taper, il est assez doué pour ça.
Ah, c'est une bonne idée.
C'est une idée. Alors, en tout cas, aujourd'hui, Véronique nous a écrit qu'elle habite à la campagne, qu'elle ne capte pas l'AFM, sauf dans ses toilettes de deuxième étage. Voilà. Et comme elle écoute beaucoup la radio, et encore si elle tient l'antenne. Voilà. Donc Véronique menace de bloquer les toilettes de 17h à 18h chez elle. Alors s'il vous plaît, pour la paix des ménages, le ministère de la Culture, faites quelque chose, non ? Ça évoque des choses, Hippolyte Girardot, vous nous disiez...
Non, mais c'était le son. Le son des longues ondes est très très particulier. Pour moi, c'est ça la radio. Donc quand c'est pas mauvais, il est disons enrobé. Voilà. Et c'est vrai que quand la FM est arrivée, ça m'a choqué d'avoir cette digitalisation du son. J'aimais bien ce qu'il y avait avant. Ça me plaisait pas mal, je trouve.
Et les automobilistes, il y a des camionneurs qui nous écrivent, qui partent de France et puis qui traversent la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, et qui donc écoutent France Inter au départ de la France et puis vont perdre à partir du 1er janvier. Rappelons aussi que les longues ondes, ce sont les seules ondes qui passent partout, quoi qu'il arrive. Donc s'il y a un tremblement de terre, exemple, quand il y a eu un tremblement de terre en Haïti, la première chose qui s'est relevée, c'était l'onde des radios pour retrouver les gens sous les décombres. Alors on ne souhaite pas ce destin à la France, mais en tout cas, il est 17h54 à Villefranche-de-Longchat en Dordogne, où vous nous écoutiez sur les longues ondes, mais vous pourrez toujours nous avoir en vidéo si toutefois vous captez.
Et sur l'appli iPhone aussi. Hein.
Oui, bah, bien sûr.
Écoutez, non, mais il y a d'autres.
On ira pisser avec l'appli iPhone en faisant gaffe de ne pas le faire tomber dans les chiottes, c'est ce que je vous dis.
Et vous serez fiché par Apple.
Et puis, il faut du réseau. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de zones blanches en France. Enfin, voilà, on était énervé avec ce sujet.
On est colère.
Louis Régaud, on a un petit exercice pour vous.
Ah oui. Mais oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Oh, évidemment qu'on va vous donner un rôle d'avocat face à Guillaume Meurice, car il y a évidemment un problème de VTC. Donc on a imaginé, Louis Régaud, que vous étiez l'avocat du beurre.
Ah, vous êtes l'avocat du beurre.
Ils m'ont piqué mes initiales.
C'est ça.
Et sans payer des droits.
Et Guillaume Meurice est l'avocat des conducteurs. On y va. La parole est à la défense.
Hubert, vous êtes foutu, les chauffeurs ne roulent plus.
Je crois, maître, que vous poussez la circulation alternée un peu loin.
Les chauffeurs ne veulent pas être la cinquième roue du carrosse. Quel métier difficile, pénible, le tout à Paris.
Vous faites bien de le rappeler, maître, tout est de faute, et de la faute, pardon, d'Hidalgo. Hein. De toute façon, tout ce qui vient de la péninsule ibérique, c'est très surfait.
Pas de racisme ici.
Mais il n'y a aucun racisme, j'ai moi-même un bon ami portugais.
Je continue et je note que l'argument de la pénibilité n'a pas été contredit.
Mais vous êtes en plein flagrant délire, mon pauvre vieux.
Pas d'insulte en ce lieu.
Mais c'est pas une insulte. J'ai même bien connu Pierre Desproges.
Maître Meurice, continuez. Je note qu'il est extrêmement pénible d'être assis toute la journée.
Mais le patron du verre aussi est assis toute la journée.
Certes, mais il ne doit pas écouter les conversations ridicules de bobos parisiens qui leur reprochent sans cesse la qualité des bonbons.
Vous êtes ridicule.
Sans compter que le passager peut choisir quelle radio il veut.
Mais et alors ?
Eh bien, certains choisissent Europe 1.
C'est faux. Plus personne n'écoute Europe 1.
Oui, alors, ouais, un point pour vous. Vous avez raison, c'est un mauvais exemple. Bon, certains choisissent RTL. C'est pas pénible, ça ?
On n'insulte pas la concurrence en ce lieu.
Pardon, ce n'était pas une insulte. J'aime d'ailleurs beaucoup les salaires en vigueur à RTL.
Continuez, monsieur Meurice. Vous n'arrivez même pas à le dire.
Oui, j'en bafouille quand je prononce RTL. Enfin, j'ajouterai, pour apaiser les tensions, nous irons prendre le patronat sur la place de la Bastille.
À vous, Louis Trio.
Calmez-vous, Gérard Filin, chauffeur.
Nous exigeons une hausse de salaire de 50%.
Pour passer sa vie à faire le kéké derrière un volant, c'est quand même pas l'usine.
Et les frais d'essence et la voiture, vous croyez que c'est gratuit ?
Si je vous comprends bien, vous voulez faire le chauffeur sans radio, sans client et sans voiture.
Et voilà, encore de la caricature.
Argument rejeté, on dirait François Fillon.
Ah, mieux vaut attraper un rhume que d'entendre un truc pareil.
Écoutez, je viens d'avoir une super idée.
D'accord, satisfaire toutes nos revendications ?
Non, un nouveau concept révolutionnaire. La VTSC.
Comprends pas.
La voiture de transport sans chauffeur.
Ah, voilà, excellente idée, ça.
Eh bien, très bien, génial. La séance est levée.
Ah merde, je suis complètement con. Qui est-ce que je vais défendre maintenant ?
Vous inquiétez pas, dans quelques semaines, les taxis vont aller.
Râlez.
Et toute cette semaine, à la fin de l'émission, il pousse la porte de ce studio avec sa guitare.
Et il pousse aussi la chansonnette. Frédéric Fromet est avec nous. En avant pour l'actu en musique.
Aujourd'hui, je voudrais vous chanter La grippe.
Très bien.
Celle qui conduit à l'abattage massif des canards.
Ah, j'ai vu.
500 canards sur la ligne de départ. Ou 500 milliards, on s'en fout, c'est des canards. Alors, juste un mot, si jamais des canards nous écoutent. Quand je dis « on s'en fout, c'est des canards », c'est du second degré. Je ne ris pas de la mort des canards, je les défends. 500 canards sur la ligne de départ, ou 500 milliards, on s'en fout, c'est des canards. Il y a un max de crétins pour buter les coins-coins. Vous n'avez rien compris aux canards de barbarie. Des tocards en col blanc qui niquent que des cols verts. Afin d'être prévenant, picose la grippe aviaire. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Des milliers de Donald envoyés à l'abattoir pour pas qu'ils tombent malades. Au moins Roselyne Bachelot, pour sauver Gédéon, aurait fourni aussitôt 50 vaccins par canton. 500 canards sur la ligne de départ, ou 500 milliards, on s'en fout, c'est des canards. Il y a un max de crétins pour buter Saint-Urnin, pour en faire des duvets ou becter des gésiers. Est-il vraiment réglo de voler dans les plumes des canards des oiseaux à cause de Zozo en costume? Il faut y voir peut-être un conflit d'intérêts. Il faudrait une enquête du commissaire Magret. Je lance un cri d'amour aux canards du monde entier. Mon préféré toujours étant le canard enchaîné. 500 canards sur la ligne de départ. Si on s'attaque aux oies, j'ai peur pour Jean-Michel Jarre. Pourvu qu'on puisse garder quelques palmipèdes graciles, que Goldman puisse chanter, il suffira d'un signe.
Merci Alex.
Mais merci Charline.
On se retrouve demain avec l'auteur et comédien de la pièce de théâtre Djihad, Ismaël Saïdi.
Un Belge.
Et puis avec Olivia Ruiz.
Olivia Ruiz.